Le message ce matin, écoutez, je vous parle souvent de John Wesley. Et John Wesley, c'est un gars, en fait, qui vient d'une famille religieuse. J'ai déjà parlé que sa mère avait eu 22 enfants, qu'elle en a gardé 19 vivants, et ainsi de suite. Donc, elle avait des journées fort occupées, quoi. Et c'est une femme très religieuse. On dit même que c'est la mère du méthodisme, quoi. C'est la mère que... elle est vraiment la source, en tout cas, une des aides qui a amené John Wesley à se convertir et aussi à provoquer ce réveil en Angleterre et sauver l'Angleterre, finalement, d'une révolution comme la France a connue. Et ce qui est intéressant quand on lit l'histoire, c'est que Voltaire et Wesley se sont rencontrés, se sont croisés. Voltaire a entendu l'Évangile, mais lui, la solution, c'était pas l'Évangile, c'était la révolution. Et Wesley, pour lui, c'était vraiment les valeurs de l'Évangile qui pouvaient sauver l'Angleterre d'une révolution. Ce qui faisait la force de Wesley dans ses prédications, c'est que Wesley ne citait que les Écritures. Il avait la conviction que c'était les Écritures qui pouvaient convaincre les gens. Alors que souvent aujourd'hui, on entend des messages, mais ce n'est que des illustrations. Et le danger des illustrations, souvent, c'est qu'on joue avec les émotions des gens. Et le danger, c'est d'amener les gens à accepter Jésus-Christ ou à reconnaître Jésus-Christ à partir des émotions. Les émotions, c'est le cœur. Mais la foi, c'est pas quelque chose qui vient uniquement du cœur, c'est aussi ici. Hein? Il y a la raison et le cœur, les deux, l'intelligence doit ressaisir le message, le cœur est touché, et là, il y a une conversion. Mais si c'est uniquement le cœur, on verse des larmes, on peut même se plier en quatre, se rouler par terre, mais au bout de quelques jours, parce qu'on n'a pas saisi le message, uniquement les émotions ont été saisies, ont été touchées. Ce qui arrive, c'est que les vies, les cœurs ne sont pas changés. Et c'est la même chose, c'est uniquement la raison. Et ça, c'était le principe de Wesley. Je pense que c'est un principe d'Écriture aussi. C'est uniquement la raison, le cœur n'est pas touché. Il n'y aura pas plus de changement non plus, parce que la raison va finir au bout de quelques jours par remettre en question le message qu'elle aura entendu. Donc, le cœur et la raison doivent être touchés. Et ce matin, j'ai dit, tiens, je vais ma première partie du message, je vais le prêcher un peu comme Wesley. Je vais vous citer les Écritures ce matin. Je ne vous citerai pas les versets, mais vous essayerez de découvrir à quel moment je cite les Écritures. C'est bien, non? Moi, je trouve que ça me fait un effort, ça me donne un effort de dire, écoute, la parole, il faut la lire à tous les jours. C'est vrai que c'est elle qui nous fortifie et c'est elle qui nous amène finalement à nous rapprocher de Dieu, à vivre cette relation intime avec Dieu. Donc, j'ai pas un passage particulier, mais le titre de mon message ce matin, c'est « Louer Dieu pour l'espoir que sa parole donne ». Moi, je pense que c'est un bon titre pour nous. « Louons Dieu pour l'espoir que sa parole nous donne ». La première question qu'on pourrait se poser, pourquoi Dieu nous a donné les Écritures? C'est pas pour qu'on soit sauvé, c'est d'abord pour connaître sa volonté. Quand on connaît sa volonté, là, on accepte ce message. Pour connaître sa volonté, Dieu, en fait, il nous a donné sa parole pour qu'on vive comme il veut qu'on vive, quoi. Comme lui veut qu'on vive. C'est ça, là, les Écritures. C'est ça, les Écritures. Et c'est pour ça que la Bible, c'est pas un texte sacré parmi d'autres, c'est la parole infaillible de Dieu. Et ce matin, eh bien, je commencerai mon introduction de la suivante. Je vais le lire, hein, ça va être plus facile. Tout le monde a des questions sérieuses concernant la vie. Mais peut-être que la question la plus importante, c'est qui a les vraies réponses? Le monde est inondé de cultures, d'opinions et de religions différentes, et on y retrouve où on retrouve la guerre, la pauvreté et la souffrance. Les gens vous offrent beaucoup de réponses, mais il est certain que toutes ces réponses ne peuvent pas être toutes vraies en même temps. Comment peut-on savoir et décider qui a raison? Et en tant que chrétiens, nous croyons que seul Dieu a les vraies réponses et qu'il nous a donné la Bible pour nous les expliquer. La Bible a les vraies réponses à toutes les questions de notre vie. Est-ce que vous dites amen à ça? Quand on trouve pas la réponse à une question de vie dans la Bible, c'est parce qu'on l'a pas encore assez lu, on replonge nos regards dans les Écritures, et Dieu va nous donner la réponse. Dieu nous a créés, il nous connaît à 100%, il nous connaît parfaitement, il sait ce qu'on va vivre, il sait qu'on vivra pas d'autre chose que les gens qui nous ont précédés ne vivront pas, hein. L'Ecclésiaste le dit, il y a rien de nouveau sous le soleil, quoi. Tout ce que vous vivez, les gens l'ont vécu aussi, de façon différente, mais c'est les mêmes problèmes qui apparaissent à chaque génération, pourquoi? Parce que le cœur de l'homme ne change pas, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et c'est toujours les mêmes problèmes qui ressortent, et c'est toujours les mêmes solutions que Dieu nous donne, parce qu'il connaît nos cœurs, parce qu'il veut nous soulager, parce qu'il veut nous guérir, parce qu'il veut aussi nous fortifier et nous encourager. Et en tant que chrétien, eh bien, tout notre enseignement doit être fondé uniquement sur la Bible, la sainte parole de Dieu, qui est divinement inspirée dans sa totalité par le Saint-Esprit. et qui est utile pour enseigner la vérité, pour corriger. Et en fait, corriger, c'est pas... Moi, il y a pendant un temps, quand j'étais jeune chrétien, je pensais que corriger, c'était vraiment nous frapper. Hein? Tu sais, l'Écriture est là, Dieu est là pour utiliser l'Écriture pour nous frapper. Mais en fait, quand on dit pour corriger, c'est pour réfuter l'erreur. Quoi. On a reçu un enseignement de nos parents pensaient que c'était la vérité. Moi, mes parents, je crois sincèrement qu'ils m'ont élevé du mieux qu'ils ont pu. Ils connaissaient pas nécessairement, ils avaient... Ma mère avait une crainte de Dieu, elle n'était pas chrétienne évangélique, mais elle avait une crainte de Dieu. Elle m'a donné les valeurs qu'on lui a transmises, mais ça ne veut pas dire que toutes les valeurs qu'elle m'a transmises étaient conformes à la parole de Dieu. Et quand on dit que la parole, eh bien, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, eh bien, c'est pour réfuter l'erreur, en fait, c'est pour montrer la fausseté de quelque chose, quoi. Parce que tant et si longtemps qu'on n'est pas confronté à la parole, on croit tous qu'on possède la vérité. Et je pense que c'est normal aussi d'y croire. Je pense pas que quelqu'un fonctionne dans la société en disant, ben moi je me trompe, moi je suis complètement à côté de la plaque, moi je suis dans l'erreur, mais moi je continue à vivre comme ça, quoi. Hein? Il y a des institutions pour ça. Je pense pas que les gens normaux, entre guillemets, en tout cas normaux, oui, agissent de façon, en sachant sciemment qu'ils sont dans l'erreur, qu'ils sont à côté de la plaque et qu'ils sont complètement, quoi, en dehors, quoi. Et la parole dans 2 Timothée 3:16, alors on nous dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre. Hein? Alors convaincre, donc elle refute les erreurs dans un premier temps et dans un deuxième temps, elle corrige les fautes. Ça c'est intéressant parce que la parole, elle n'est pas là juste pour réfuter les erreurs, mais elle est là aussi pour nous donner, pour, ok ça c'est une erreur, maintenant voici la solution à l'erreur, voici la solution. Alors ça t'es dans une faute dans ce côté-là, mais voici maintenant la solution que Dieu te donne. Alors, toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour corriger, pour convaincre. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite le texte biblique? Pour instruire dans la justice. Ça veut dire quoi, pour instruire dans la justice? C'est former la personne à vivre d'une façon juste. C'est-à-dire former la personne à vivre d'une manière comme Dieu le désire. C'est ça, former dans la justice. Le mot justice, souvent, on se dit, oui, moi, je marche dans la justice de Dieu. Mais la justice de Dieu, c'est quoi? Ça veut dire que moi, quand je dis je marche dans la justice de Dieu, ça veut dire, moi, je marche comme Dieu veut que je vive, quoi. Moi, je fonctionne dans ma vie comme Dieu veut que je vive. C'est ça, la justice. Hein? Il y a un chant qu'on chante, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et c'est chercher d'abord le royaume de Dieu et de vivre de manière conforme à ce que Dieu demande. Et tout le reste vous sera donné. Alors, former une juste manière de dire, afin que l'homme de Dieu, celui qui appartient à Dieu, soit accompli. Et c'est, moi, soit accompli, écoutez, ça, j'allais dans le grec, mais c'était pas clair pour moi. Et cette semaine, c'est en lisant Luc chapitre 6, verset 47 que j'ai compris qu'est-ce que ça veut dire le mot accompli, puisque Jésus l'a dit de sa bouche. Et il dit, c'est quelqu'un qui est accompli, c'est celui qui cherche à devenir comme son maître. Et c'est ça que la parole veut. Et notre maître, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est pas le pasteur, c'est pas un membre de l'Église, c'est pas un ancien, c'est Jésus-Christ. Alors l'Écriture, elle est là pourquoi? Elle nous a été donnée aussi pour ressembler à celui qui est non seulement notre Créateur, notre Sauveur, notre Maître, mais aussi, celui qui nous a donné son esprit pour qu'on puisse le rassembler. Et l'Écriture, elle est là pour ça. Elle nous donne des instructions pour qu'on puisse devenir comme Jésus-Christ, qui est vivant. Et en fait, pourquoi? Pour nous préparer, nous dit le texte biblique dans 2 Timothée 3:16, et équiper pour accomplir toute œuvre bonne. C'est ça que la Bible nous, c'est pour ça que la Bible nous est donnée aussi. On est dans une génération où on a de la difficulté à parler du péché, c'est traumatisant. À parler de l'enfer, c'est traumatisant. Mais moi, je dois vous dire qu'on n'a pas besoin de parler du péché aux gens. Les gens, ils le savent qu'ils vivent dans le péché. Je vais vous raconter une anecdote. Cet été à la mer, je vous ai raconté le couple de 45 ans qui vivait, ben, qui était amant, non? Je l'ai tellement dit depuis que je suis revenu de la Palme. Alors, à un moment donné, on était en train de prêcher l'Évangile. Hein. Émission vacances, c'est pas gris, la zone n'est pas grise, c'est blanc ou noir. On prêche vraiment vraiment l'Évangile comme Jésus l'a prêché. Et quand les gens s'arrêtent, eh bien, quand ça fait 2-3 minutes qu'ils sont là, qu'ils écoutent le message, on s'approche. Et bon, et moi, mon approche était, je parle aux gens, j'ai écouté, est-ce que vous avez déjà entendu ce message-là? Ils me disent oui, ils me disent non. Qu'est-ce que vous en pensez? Et ainsi de suite. Et puis là, ça nous permet d'entrer dans le vif du sujet. Et à un moment donné, je vois un couple qui avait de l'air très amoureux, 40-45 ans, qui se prenait par le bras, et puis la fille, la dame, elle avait la tête posée sur l'épaule de son copain. Et je commence à parler avec elle et tout ça, puis ils étaient tout souriants, et je dis, au bout de 15 minutes, je dis, pardon, je dis, je veux pas être indiscret, parce que, je dis, vous êtes mari et femme? Alors, elle me regarde avec un grand sourire, elle me dit, non, on est amants, quoi. Elle est amants. Elle dit, je sais que Dieu est contre ça. Elle savait qu'elle vivait dans le péché, quoi. Vous n'avez pas besoin de le dire aux gens. Hein? Dieu leur a donné une conscience. Et dans Proverbe, il est écrit que la conscience, c'est la lampe que Dieu a donnée au cœur de l'homme pour examiner les profondeurs de son âme. Les gens, ils sont sans excuse. Ils le savent qu'ils vivent dans le péché. Il n'y a pas besoin de les marteler. Chaque action qui est contraire à celle que Dieu demande, ils le savent. Ils le savent quand ils marchent droit, quand ils ne marchent pas droit. Et ils me regardaient un beau sourire en me défiant, en me disant, mais je ne veux pas changer. Je suis bien comme ça. Donc, ça me dit qu'ils sont en amant avec un gars marié, quoi. Et elle n'était pas gênée. C'était normal pour elle, quoi. Pourquoi? Parce qu'elle voulait, c'était normal pour elle parce qu'elle voulait vivre dans le péché. J'ai rencontré une autre dame qui était lesbienne. Et, j'avais mon évangile, j'ai commencé à y parler de Dieu. Elle me dit, ça c'était un autre jour, hein, c'est pas cette journée-là. Une autre fois. Et, j'ai pas eu besoin de dire. J'ai parlé de l'évangile, elle m'a dit, oui, mais, je sais que lui, il n'est pas pour ça. Elle m'a dit, c'est pas grave, mon psychiatre m'a dit que c'était normal. Ben, j'ai pas voulu la condamner ni la juger, mais j'ai dit, écoute, j'ai dit, quand tu vas mourir, c'est pas devant ton psychiatre, tu vas comparer, c'est devant Dieu. Moi, je dois te dire que Dieu n'est pas pour ça, quoi. Mais elle savait qu'elle vivait dans le péché. Mais elle avait une solution pour, si vous voulez, pour légitimer son péché, c'est que son psychiatre avait dit que c'était normal. Pour soulager sa conscience. Alors, les gens dans le monde, ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin qu'on les martèle. Qui vivent dans le péché, puis qui sont pécheurs, ils le savent. Et ils sont tristes dans leur cœur parce qu'ils n'ont pas la solution pour sortir du péché. Et c'est ça que l'Évangile, et notre frère tantôt, Patrick, a prié dans sa prière, il disait, oui, on est là pour prêcher l'Évangile, on est là pour annoncer l'Évangile, et sans compromis, quoi. Sans compromis. Moi, si j'avais été fin psychologue, il y a deux cas où j'aurais jamais été capable de donner personne à Christ, quoi. Personne. Et le dernier, vous savez, c'est un dénommé Guy Anguillen qui est venu ici. J'étais avec Samuel. Et on est allé contre toute forme de psychologie. Quoi, hein? C'est quelqu'un qui se plaignait. Il nous a appelé, il se plaignait que le couple protestant qui habitait à côté de chez lui, donc je ne donnerai pas l'adresse, il m'a appelé chez moi, il m'a pris dans le bottin, il m'a dit, écoutez, je vous appelle, vous êtes pasteur d'une église? Je dis oui. Je vous appelle parce que le couple protestant à côté de chez moi, il se dispute toujours. J'ai dit, pourquoi vous êtes protestant, vous? Non, absolument pas. Ben, j'ai dit, écoutez, donnez-moi votre adresse avant d'aller chez le couple protestant, je vais aller vous voir pour entendre votre version des faits. Et mais finalement, je ne connaissais pas cette personne-là. J'ai dit à Samuel Stebelski, j'ai appelé Samuel, j'ai dit, écoute, est-ce que tu voudrais venir avec moi? Il m'a dit oui. On est allé rencontrer ce gars-là. Ça faisait 6 mois que sa femme était morte d'un cancer. Il était abattu. Son seul repas, ses 3 repas par jour, c'était des bouteilles de bière, des bouteilles de bière, des bouteilles de bière. Hein, Samuel, c'est ça, hein? C'était le désordre, mais le désordre total là-dedans, tu aurais eu l'impression qu'il y a une armée qui est rentrée, qui avait tout renversé dans la maison. Et il a commencé à me raconter sa vie. Et à chaque fois, je disais, oui, mais Guy, tu vas mourir un jour. Ouais, je sais, je vais mourir. Et tu vas comparer devant Dieu. Ouais. Dieu va te poser une seule question. Qu'est-ce que tu as fait de mon fils Jésus-Christ? Ouais, mais écoutez, en plus, vous savez, j'ai travaillé à la poste pendant longtemps. Écoutez, écoutez, il esquivait, quoi. Hein, il ne voulait pas répondre à la question. Et moi, je l'écoutais. Et vous savez, quand des gens vous racontent leur vie, vous priez le Seigneur, vous dites, c'est quoi la solution, Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que je veux lui dire? Et il me racontait tout ça, il m'a raconté sa carrière. Et après ça, je disais, ben Guy, ça n'empêche pas qu'un jour tu vas mourir et que tu vas comparer devant Dieu, et Dieu va te poser la même question. Pourquoi devrais-je laisser rentrer au ciel? Qu'est-ce que tu as fait de Jésus, mon fils? Oui, mais tu sais, j'avais quand même une bonne femme, hein? C'est pour ça que je suis triste, pour ça que je bois. En tout cas, Samuel, il est témoin. Hein? Au moins 10 fois, il a essayé de détourner, il ne voulait pas répondre. Et en dernier, hein, paf! Je dis, écoute, oui, mais Dieu va te demander, mais pourquoi Guy? Pourquoi Dieu, je devrais te laisser rentrer au ciel? Vous savez ce qu'il m'a dit? Dieu, moi, il ne me laissera jamais rentrer au ciel parce que j'ai commis trop de péchés. Il avait besoin d'être convaincu de péché. Mais si j'étais resté juste dans son problème, là, je ne l'aurais jamais amené à la croix. Et vous le connaissez, Guy? C'est celui qui est venu ici, il avait les cheveux tout crasseux, qui est habillé comme un motard et qui a fait exprès pour venir comme ça le dimanche qu'il est venu. Vous souvenez de lui, hein? Il est rendu en Espagne maintenant. Et quand je l'ai rencontré après, vous savez ce qu'il m'a dit? C'est pour ça que c'est important d'être un témoignage pour les non-chrétiens. Il est entré ici, il m'a dit, écoute, je ne vous dirai pas ça fait combien de semaines qu'il ne se lavait pas, ce gars-là. Il ne se lavait pas depuis que sa femme était morte, quoi. Il est rentré ici, crasseux. Et il est venu prendre un café en bas. Pour une simple et bonne raison, il voulait voir votre réaction par rapport à comment on réagirait par rapport à quelqu'un qui est démuni. par rapport à quelqu'un qui est sale en fonction de la société. Et il a vu que l'Église était remplie d'amour, quoi. Il est revenu à l'Église. Et cette journée qu'on l'a rencontré avec Samuel, il a pris une décision pour le Seigneur Jésus. Moi, il m'a fait peur parce qu'il a arrêté complètement de boire, hein, Samuel? Alors, nous, on avait peur, on a dit, il va faire un délirium tremens, il va... Non, Dieu l'a délivré complètement, quoi. Et là, il a décidé de tout abandonner, sa maison, il a tout laissé cela, il a tout laissé ses affaires, il a rempli sa voiture, puis il est parti en Espagne, il est allé vivre en Espagne. On a eu quelques contacts après par email. Mais il savait qu'il était pécheur, Guy. Et après, moi, ce qui m'a réconforté, c'est que vous êtes, il est venu ici. Il m'a dit, Jacques, je suis venu habillé tel quel, je ne me suis pas lavé, parce que je voulais voir uniquement pour voir la réaction des gens de l'Église. Moi, je voulais savoir si vous viviez ce que vous prêchez. Si vous m'auriez repoussé, jamais je serais revenu à l'Église. C'est ce qu'il m'a dit. Alors, écoutez, les non-chrétiens, là, ils ne nous parlent pas, et on a l'impression qu'ils se tiennent loin de nous. Mais les non-chrétiens, ils vous observent. Quoi. Ils vous observent. Et votre témoignage, il doit correspondre à ce que vous enseignez, à ce que vous dites être dans la parole. Quoi. C'est pour ça qu'un des buts du Seigneur, pourquoi Dieu nous a laissé sa parole, c'est pour connaître sa volonté, mais nous amener à ressembler à la personne de Jésus-Christ. Et ça, là, il n'y a pas de miracle en dehors que de lire sa parole. C'est Dieu qui nous montre, qui nous met en lumière. Écoutez, quand on s'examine, là, on n'est jamais trop pire qu'un autre, on n'est jamais trop meilleur qu'un autre, on se contente souvent de ça en tant qu'être humain. Mais Dieu, lui, il dit, moi, je me contente pas de ça dans ta vie. Moi, écoute, je t'ai sauvé, pas pour que tu ressembles à ce que tu étais avant, puis dire simplement que tu portes l'étiquette chrétienne, moi, je t'ai sauvé parce que je veux que tu ressembles à la personne de Jésus-Christ. Tu t'emmènes à ça. Et rappelez-vous, les chrétiens, les non-chrétiens, ils vous examinent, quoi. Il vous regarde. Alors, la solution, c'est toujours la croix. C'est vrai que si les gens ont des problèmes, on est là, on a les solutions pour les aider. Mais c'est la croix qui transforme les vies. La foi vient de ce qu'on écoute le message, et le message est l'annonce de la parole de Christ. Et cette foi par laquelle nous sommes sauvés ne consiste pas seulement à accepter tout l'évangile de Christ, mais à se reposer pleinement sur le sang de Christ, à placer notre confiance dans les mérites de sa vie. C'est-à-dire, il n'a commis aucun péché. Dans les mérites de sa mort aussi, il est mort à notre place pour subir la punition que nous méritions pour nos péchés. Et dans les mérites de sa résurrection, il a vaincu la mort et tout comme lui, nous dit l'apôtre Paul, un jour Dieu nous ramènera aussi de la mort à la vie. Et j'espère que c'est l'espérance de tous et chacun ici ce matin. Que si Dieu reprend votre vie aujourd'hui, eh bien que vous allez entrer dans le ciel pour l'éternité. Si nous sommes pardonnés, c'est uniquement grâce à son sacrifice accompli sur la croix. Et cela signifie que ce salut s'obtient uniquement par la foi. Il est présent, il nous sauve du péché, de la culpabilité qu'il entraîne, de la crainte qu'il produit, et aussi de sa puissance du péché. Dieu aime tous les êtres humains d'un amour égal, et il est bon pour tous. Psaume 145:9, Dieu est bon pour tous. Dieu n'a pas créé des gens pour aller en enfer et des gens pour aller au ciel. Dieu est bon pour tous. Dieu veut que tous parviennent à la repentance, nous dit l'apôtre Pierre. Avez-vous la conviction ce matin que Dieu vous aime tous d'un amour égal? C'est important, ça. Il n'y a aucun chrétien qui devrait souffrir d'un complexe d'infériorité ou de supériorité. Dieu nous aime tous d'un amour égal. Quoi. Dieu vous aime tel que vous êtes. Lorsqu'il vous a justifié, mais Dieu ne se contente pas de faire en sorte que vous restiez ce que vous étiez quand vous l'avez accepté. Dieu veut vous faire grandir. Dieu veut vous faire progresser. Et je le répète, je le martèle pour vous amener à ressembler à la personne de Jésus-Christ. C'est pas extraordinaire, ça? Et c'est tout un contrat, quoi. C'est tout un contrat pour le Seigneur de nous amener à ressembler à Jésus-Christ. Il connaît nos travers. Il nous a donné un cœur nouveau à travers la nouvelle naissance. Et c'est à travers ce cœur nouveau-là que Jérémie nous dit, un cœur de chair, que Dieu dit, écoute, à partir de ce nouveau cœur que je te donne, je suis capable de t'amener à ressembler à Jésus-Christ. Écoutez, je ne veux pas blesser personne, mais Dieu, écoutez, le cœur de l'homme est tellement tortueux et corrompu, tellement pourri, que même Dieu a démissionné à le transformer. Quoi. Je ne peux pas transformer ce cœur-là, je vais leur en donner un nouveau. Et c'est ça, ce cœur de pierre, Dieu le change, il nous donne un cœur de chair. C'est extraordinaire, ça. Et ce cœur de chair, il est disposé, capable de recevoir l'Esprit de Christ. C'est un nouveau décor. C'est une nouvelle disposition du cœur, une nouvelle disposition d'esprit. Et là, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Écoute, l'amour que tu as connu, l'amour humain que tu as connu, moi, je vais le remplacer par l'amour divin. C'est ça que je vais déverser dans ton cœur, parce que tu es né de nouveau. Et cet amour divin-là, tu vas être capable de le diffuser autour de toi. Même sans ouvrir la bouche, par ton témoignage d'amour, les gens, à travers ce que tu vas transpirer, les gens vont désirer, vont soupirer ardemment à recevoir cet amour-là. Ouais. Et c'est pas merveilleux de savoir que la grâce de Dieu est offerte à tous les hommes qui sont libres de l'accepter ou de le rejeter. Voilà pourquoi Jésus-Christ, son Fils unique et éternel, qui est de même essence que lui, est mort sur la croix pour racheter les pécheurs, c'est-à-dire qu'il est mort pour tout le monde, sans exception, puisque tous ont péché, Romains 3:23. Nous souvenons que personne, Romains 3:20, que personne ne peut être reconnu juste devant Dieu pour avoir accompli ce qu'ordonne la loi. La loi permettait seulement à l'homme de savoir qu'il avait péché. Mais maintenant, à travers Jésus-Christ, Dieu, dans sa bonté, nous a montré comment il rend les hommes justes devant lui, et cela sans l'intervention de la loi. Dieu rend les hommes justes à ses yeux par leur foi en Jésus-Christ, et il le fait pour tous ceux qui croient en lui. Romains 3, 21, 22. Zacharie et Élisabeth, Luc chapitre 1, verset 6. Tournez dans Luc chapitre 1, verset 6. C'est ma lecture cette semaine. Alors moi, je lis un passage dans les Évangiles, un passage dans les Épîtres, un passage dans l'Ancien, puis un passage dans les livres poétiques. Donc, je lis 4 chapitres par jour, et j'essaie 2 dans l'Ancien, 2 dans le Nouveau. Et là, ma lecture dans les Évangiles, c'était dans Luc cette semaine. Et tellement habitué à lire Luc que j'avais pas vu ça, quoi. Ça m'avait pas frappé. Luc, chapitre 1. Et c'est vrai que nul, en observant toute la loi, même si on l'observe parfaitement, il n'y a personne qui peut gagner son ciel à travers la loi. Regardez ce qu'on nous dit. On parle d'Élisabeth et on parle de Zacharie. Et le verset 6, c'est un verset qui est fort, quoi. Tous deux étaient justes devant Dieu. Pourtant, on nous dit il n'y a pas un seul juste. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable. Ils étaient irréprochables devant Dieu, observant de manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Et moi, je trouve que c'est fort, ça. Moi, si je m'arrête juste à ça, je me dis, hey, Seigneur, moi, je suis capable de gagner mon ciel en observant tes commandements, en obéissant à tes ordonnances. Mais la Bible a dit qu'on vient tous au monde pécheurs. Et que c'est pas parce que, et c'est ce que la loi nous révèle, c'est pas parce que tu obéis parfaitement à tous les commandements, à toutes les ordonnances du Seigneur, que tu hérites du ciel. Eux, ils l'ont fait pourquoi ça? Par la foi. C'est des gens qui croyaient en Dieu, et ils se sont dit par la foi, au Messie à venir, on va observer tous les commandements et toutes les ordonnances. Mais ils avaient besoin, comme d'Abraham, comme de tous ceux qui les ont précédés dans l'Ancien Testament, ils avaient besoin de placer leur foi dans l'agneau de Dieu qui efface le péché du monde. C'est un beau passage, non? Ils ne pouvaient uniquement espérer entrer au ciel parce qu'ils avaient placé leur foi dans les Écritures. Le salut par la foi est la seule doctrine qui apporte la consolation aux pécheurs exposés à la destruction et à la condamnation. Cet été, il y a une dame qui s'est arrêtée à la panne. Le premier soir, elle est passée, elle nous a écoutés, et elle a dit, ça, c'est du n'importe quoi ce qu'ils sont en train de prêcher. Femme de 35 ans, qui a vu de tourner, là, je viens de lui donner le nom d'une église évangélique. Elle dit, ça, c'est du n'importe quoi. Et elle n'était pas contente, hein? Du n'importe quoi ce que vous dites, quoi. Je dis, au moins, elle ne souffrira pas de refoulement, quoi. Elle exprime ce qu'elle pense, quoi. Hein? Ouais. C'est votre opinion, madame. Elle revient le deuxième soir. Ah, elle n'ouvre pas la bouche. Elle revient le troisième soir. Elle va voir la femme de la femme de Kevin Matthews. Elle dit, madame, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvée? Moi, je ne sais pas si vous avez été à la panne à entendre le message d'émission vacances, mais il ne faut pas soyez complexés, quoi. Il est clair, il est net, quoi. Premier soir, ils vont dire n'importe quoi. Ah, le deuxième soir, mais par rapport à ce que j'entends dans le monde, c'est équilibré. Et le troisième soir, quoi, tu viens de réaliser, je suis perdu. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Comme le geôlier, quoi. Ça me réjouit parce qu'en début de semaine passée, j'ai reçu un email. Genre, peux-tu trouver une église à cette femme-là? Je cherche une église évangélique dans la région de Tourneau. Et je l'ai référé au pasteur Roger Lefebvre de Hatt. Extraordinaire, hein?
L'Angèle.
Nous, on regarde aux yeux, on regarde les apparences. Ouais. Ouais, il fait pitié.
Déjà.
Ouais, besoin d'entendre parler de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Source de salut pour tous les hommes.
La grâce de Dieu.
Il n'y a pas besoin qu'on couvre ses bobos. Il y a besoin qu'ils soient effacés, ses bobos. Le sacrifice dans l'Ancien Testament couvrait seulement les péchés. Ils effaçaient pas. C'est pour ça qu'ils venaient faire une fois par année les Juifs. Ça faisait couvrir les péchés pour un an. Jean-Baptiste voit arriver l'agneau de Dieu. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui efface. Efface le péché du monde.
Efface.
Quand le Seigneur, dans la parole, à travers le psalmiste, il dit, confessez, maudit soit celui qui confesse ses péchés aux hommes, qu'on doit confesser ses péchés à Dieu, confesser aux blessures à Dieu, et raconter, Seigneur, tu connais mon cœur, tu sais que j'ai été abusé de ci, j'étais juste, Seigneur, toi, tu connais la solution, tu sais comment me guérir, Seigneur. Il y en a des temps de rencontrer des pires que moi, Seigneur. Les pires que moi. Le Seigneur est capable de guérir. Moi, j'étais jeune, un caractère très difficile. Moi, les psychologues, je m'en moquais des psychologues. J'ai manipulé les psychologues. Heureusement que je n'ai pas tombé dans cette génération de psychologues, moi.
Ouais.
Je peux vous confesser publiquement que c'est Dieu. Et je ne vous raconterai pas toutes les expériences que j'ai vécues. J'étais un cas de psychiatrie, quoi, hein, si j'écoute les gens parler aujourd'hui. De ce que j'ai vécu avant, quoi. Ouais. Moi, je peux dire que c'est Jésus qui m'a délivré de tous mes problèmes, quoi. Tout. Parce que j'ai pas eu peur de venir devant la croix et dire, écoute, Seigneur, j'ai fait ça, j'ai trahi, j'ai joué là-dedans, j'ai fait ci, j'ai touché à ça, Seigneur. Je t'esclave de ça, Seigneur. Toi, tu vas me délivrer, quoi. Tu vas me délivrer. Et Dieu m'a délivré, quoi. Et Dieu est capable de vous délivrer aujourd'hui encore. C'est ça la bonne nouvelle. Dieu a la puissance pour vous délivrer. Aucun de ceux qui espèrent en lui n'aura à le regretter. Psaume 25, 3. Parce que le Seigneur est généreux envers tous ceux qui font appel à lui. Psaume 86, 5. Voilà l'espérance qui nous donne les Écritures. Romains 15, 23 et 15, 4. Dieu est riche en miséricorde. Éphésiens 2, 4. Et ce, pour tous. S'il a été pour Zachée, le voleur du denier public. Luc 19, 1. Pour la femme de mauvaise vie qui apporte un vase d'albâtre plein de parfum, Luc 7, 37. La femme prise en flagrant délit d'adultère, Jean 8, 3. Alors tu peux toi aussi espérer trouver grâce. Dieu ne repousse pas ta prière. Qui sait, il va peut-être te dire tout à l'heure, prends courage, tes péchés sont pardonnés. Quelle joie pour Zachée, pour Marie, pour la femme adultère, de savoir que leurs péchés sont pardonnés. N'en est-il pas ainsi pour tous ceux qui ont vécu la même expérience? Nous comprenons donc qu'un homme est rendu juste devant Dieu à cause de sa foi et non parce qu'il obéit à ce qu'ordonne la loi. Romains 3, 28. C'est pourquoi, dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau, c'est-à-dire une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Il n'est pas normal que quelqu'un chrétien qui se dise né de nouveau puisse voir ses problèmes de la même façon qu'il les voyait avant. C'est pas possible. Il n'y a pas les mêmes yeux, il n'y a pas le même cœur, il n'y a pas la même façon de penser. C'est pas possible. Je vous dis pas qu'il n'y a pas des problèmes, mais il ne peut pas les voir de la même façon. C'est pas possible. Ça passe par une nouvelle naissance. T'es mort. Hey, t'es mort. Une nouvelle naissance. Doctrine capitale essentielle dans le christianisme, dans la foi évangélique. La nouvelle naissance. C'est la première doctrine que Jésus a prêchée à Nicodème. Nouvelle naissance. Elle est importante, pourquoi? À moins de naître de nouveau, nul ne peut voir, ni nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean chapitre 3, verset 6 et suivant. La nouvelle naissance. Vous savez qu'on peut venir à l'église à tous les dimanches et pas être sauvé. Vous savez qu'on peut confesser nos péchés à tous les dimanches et pas être sauvé. Vous savez qu'on peut louer le Seigneur et prier le Seigneur et pas être sauvé. Parce qu'on n'est pas né de nouveau. Et je parlais avec quelqu'un cette semaine. Je crois sincèrement que la religion évangélique, elle s'est installée dans le milieu évangélique. Il y a des gens qui viennent tous les dimanches à l'église parce que ça serait péché s'ils n'avaient pas l'église le dimanche. Moi, je vivais ça chez les catholiques. Hein. Mon père il allait à l'église le dimanche, de peur que s'il mourait, il venait de commettre un péché, puis il allait en enfer, quoi. De peur aussi de ce que les gens diraient. Mon père, il n'avait rien à cirer de ce que Dieu pensait de lui. La religion évangélique, ça existe, quoi. Il y a des chrétiens qui prennent la Sainte-Seine en pensant que ça les purifie, quoi. S'ils mourraient aujourd'hui ou demain, ça leur garantit qu'ils vont rentrer au ciel. Comme la petite hostie qu'on me mettait sur le bout de la langue quand j'étais un gamin. La nouvelle naissance. Sans la nouvelle naissance, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Sans la sanctification, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Hébreux chapitre 12. L'évangéliste, le mouvement évangélique, c'est pas une religion, c'est une relation. Amen. Oui, c'est une relation. C'est une relation avec le Seigneur. Que se passe-t-il alors lorsque nous sommes unis au Christ? Dieu déverse et remplit nos cœurs de son amour par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Romains chapitre 5, verset 5. Et le pardon des péchés que nous recevons par la foi à la croix nous libère du sentiment de culpabilité et de la crainte par la présence de l'Esprit de Christ qui habite en nous. Partout où la foi vivante existe, elle produit la paix du cœur et la sainteté. Et cette foi elle-même n'est rien d'autre qu'une ferme confiance qui est placée en Dieu, psaume 112, verset 7, et qui assure le pécheur que c'est péchés lui sont pardonnés par les mérites de Christ et qu'il est réconcilié avec Dieu, Romains 5, 10. Le grand privilège du chrétien évangélique, c'est d'avoir la certitude qu'il est délivré du péché. Il n'y a aucune religion, aucune croyance dans le monde qui peut garantir ça. Et la parole nous dit que celui qui est né de nouveau, non seulement il est pardonné de ses péchés, mais à la croix aussi, il a la puissance d'être délivré du péché. Mais il faut que ce soit enseigné, il faut que ce soit prêché. À la croix, il y a trois choses qui se passent. Pardon, quatre choses qui se passent. Pardon des péchés. Délivrance de la puissance que le péché exerçait dans ma vie. Délivrance que le monde exerçait dans ma vie. Délivrance de la puissance que Satan exerçait dans ma vie. Et je suis capable d'être libéré, pas parce que j'en ai la force, parce que Christ a pris sur lui cette puissance que le monde, le péché et Satan exerçaient sur moi. Et en retour, il me donne cette liberté que lui avait de dire non au péché. C'est ça la nouvelle naissance, hein, de façon pratique. Tu t'emmènes à ça? Oui. Frères et sœurs, l'adversaire rugit toutes les fois qu'on annonce au monde le salut par la foi. Il remue la terre, il remua la terre et l'enfer pour faire périr ceux qui ont prêché ce salut les premiers. Il savait que seule la foi peut renverser non seulement des montagnes, mais peut renverser les bases de son royaume. Et c'est pour cela qu'il a réuni toutes ses forces et qu'il a mis tous ses artifices de mensonges et de calomnies pour effrayer Martin Luther et l'empêcher de faire revivre cette doctrine. Grâce à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui, comme au Père et au Saint-Esprit, soit louange, gloire, sagesse, reconnaissance, honneur, pouvoir et force au siècle des siècles. Comment maintenant pouvons-nous savoir que nous sommes unis à Dieu? 1 Jean chapitre 2, versets 5 et 6. Celui qui déclare demeurer uni à Dieu doit vivre comme Jésus a vécu. En d'autres mots, il obéit à sa parole, et celui qui obéit à sa parole est un homme dont l'amour pour Dieu est véritablement parfait. 1 Jean chapitre 2, verset 5. Par eux-mêmes, par nous-mêmes, nous sommes incapables d'y arriver, mais il est écrit que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Philippiens chapitre 4, verset 13. Croyons aussi qu'il a le pouvoir de nous garder de toute tentation, parce qu'il a été tenté lui-même en toutes choses. Et la Bible nous dit que lui n'a jamais péché. Mais ici, les efforts, ici, ce à quoi nous avons à faire face quand nous vivons dans les tentations, et il nous donne la capacité. Cette capacité qu'il a eue, il nous la donne pour résister à la tentation. Et la Bible nous rappelle que la tentation, c'est pas péché quand on est tenté. C'est de succomber à la tentation qui est péché. Mais la tentation, c'est pas péché. Pas avoir une tentation et pas avoir fait exprès pour être placé devant. Je l'ai déjà dit une fois ici, il y a quelques mois, avec les panneaux publicitaires qui traînent le long de nos routes aujourd'hui, c'est difficile de pas être tenté. Ce qui est important, c'est par rapport à ce qu'on voit, de pas alimenter dans nos pensées pour, là, à ce moment-là, tomber dans la tentation. Je suis intimement persuadé que si tant de gens cherchent à entrer dans le royaume des cieux et qu'ils n'y arrivent pas, c'est qu'il y a un déni là, un vice chéri dont ils ne veulent pas se défaire, se flattant en pensant que le fait d'observer fidèlement ce que Dieu demande sur d'autres points leur fera pardonner ce péché particulier. La voie qui conduit au ciel est si étroite, la porte que nous avons à franchir est si resserrée qu'elle ne laissera passer personne à qui s'attache un seul péché connu et non confessé. David l'avait compris, Psaume 139, verset 23-24. Si vous voulez tourner avec moi. Psaume 133, verset 23-24. 139, verset 23-24. Ça, c'est ma première prière le matin quand je me lève. Le Seigneur m'a mis à cœur cette prière-là. Avant de commencer à lire ces Écritures, c'est la première prière que je récite. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 143, verset 10. Seigneur, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. C'est le même personnage qui est en train de prier ici. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Et la voie droite, c'est la voie de l'éternité dans le psaume 139. Et la voie de l'éternité, c'est ce chemin si étroit que Jésus nous a parlé. Et que notre prière à chaque matin quand on se lève, ça puisse dire, Seigneur, sonde-moi. Sonde-moi, Seigneur, sonde mon cœur. Sonde mon cœur, Seigneur, et connais-le, mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur. Connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, une mauvaise route, Seigneur, un mauvais chemin. Peut-être que moi, Seigneur, à vue humaine, je pense que je suis sur une bonne route, mais Seigneur, par ton esprit, éclaire-moi. Éclaire-moi. Dans la lecture de votre parole, dans la lecture de la parole du matin, Dieu va vous éclairer, Dieu va vous montrer. L'esprit va vous parler. On a besoin de crier au Dieu, sonde-moi, ô Dieu, comme le psalmiste, sonde-moi. Et vous savez ce que ça veut dire, le mot sonder dans l'hébreu? Seigneur, gratte-moi en surface. Le mot sonder, ça veut dire, ne te contente pas de gratter en surface. Sonde-moi, c'est va en profondeur, le plus loin que tu peux, Seigneur. Sonde-moi et connais mon cœur. Parce que tu connais mon cœur mieux que moi, je peux le connaître, Seigneur. Tu connais mes mauvaises pensées, Seigneur. Tu connais les mauvaises paroles que j'ai prononcées la veille, Seigneur. Tu connais les mauvaises actions que j'ai commises, Seigneur. Je les ai peut-être oubliées ce matin, je viens de me lever. Avec l'espérance que je vais entrer dans ta présence, dans une communion intime avec toi. Et Seigneur, je te demande de sonder mon cœur afin que rien qui puisse empêcher ton esprit. Lorsque je vais plonger mon regard dans ta parole, que rien qui va empêcher ton esprit de pouvoir m'enseigner la vérité. Sonde-moi, ô Dieu. Hey! Et le psalmiste, il ne se contente pas de sonder son cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde, parce que pourquoi? Parce que nos pensées, elles ont besoin d'être pures, puisque Jésus dit dans Marc, car c'est du cœur de l'homme. Hey, écoutez, hey, les Écritures, elles se rattachent ensemble. Ici, il parle du cœur, il parle des pensées. Jésus répète dans Matthieu, dans Marc, il est en train de nous dire ce que le psalmiste est en train de dire. Ce qu'il veut dire, en fait. Car c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées qui le poussent à commettre l'adultère, à voler, à envier, à commettre le péché encore. Et le psalmiste dit, Seigneur, moi je veux tellement marcher droit avec toi. Je ne veux pas me fier sur mon jugement. Alors Seigneur, toi qui connais toutes choses, viens sonder mon cœur. Révèle, dévoile mes pensées, Seigneur, afin qu'elles soient pures. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Seigneur, est-ce que j'ai un pied dans le monde et un pied dans l'Église? Est-ce que je marche un pied sur le chemin large qui mène à la perdition? Est-ce que j'ai un pied sur le chemin étroit, Seigneur? Et entre les deux, c'est le vide. Seigneur, je veux marcher sur le chemin étroit. Pourquoi? Parce que c'est le chemin qui mène à l'éternité. Et c'est ce chemin-là que je veux, sur lequel je veux marcher, sur lequel je veux que tu me conduises. C'est extraordinaire, hein? Le psalmiste, il y avait une profondeur, il y avait une relation incroyable. Et s'il y avait bien un gars qui avait besoin d'un psychologue, d'un psychiatre vu humaine, c'est bien David, hein? Quand vous lisez les psaumes, vous vous dites, il ne peut pas être chrétien, lui déprimé comme il était, c'est pas possible, quoi. Tout ce qu'il a vécu, pourchassé par Saül, quoi. Il savait que quand Saül le mettrait la main dessus, c'était pas, tu vas être condamné à 3 jours, quoi. Avec une libération conditionnelle, tu vas faire juste une journée. C'était clic. Hey, c'est stressant, ça. Tu te couches le soir, puis tu sais pas si tu as la tête qui va rouler durant la nuit, quoi. Il a vécu des choses, David. Mais il était capable de triompher parce que David avait une relation intime et profonde avec son Seigneur. Faisais ça ce matin, j'espère que vous avez la conviction que la relation que David vivez avec son Seigneur, elle vous est aussi disponible, cette relation-là. Mais tout va en fonction des décisions que vous et que moi nous prenons par rapport à cette relation que Dieu nous offre. De dire, écoute, dans les moments de détresse, tu peux compter sur moi, quoi. Je te ferai jamais défaut. Je connais tes problèmes, moi. T'as juste à me les dévoiler, je vais te donner mes solutions.
Ils sont dans la parole.
T'es déprimé ce matin? Tu peux pas savoir le million de chrétiens qui m'ont prié, qui étaient déprimés depuis des siècles. Je leur ai donné les solutions. Psaume 37, psaume 34. Amen. Alors, c'est seulement Joseph qui, après des années d'épreuves, des tentations de toutes sortes, a pu dire à ses frères, Genèse chapitre 50, verset 19 à 21, hein, Jacob vient de mourir. Là, ses frères, ils ont peur que Joseph se venge de tout le mal que ses frères lui ont fait. Qu'est-ce que Dieu a appris à Joseph pendant toutes ces années? Qu'est-ce que Jésus a voulu montrer à Joseph? C'est des leçons de vie pour nous aussi. Joseph, il a été accusé d'adultère, faussement d'adultère. Il a été condamné, envoyé au cachot humide des Égyptiens. À moitié nu, enchaîné, injustement accusé, injustement condamné. Il a été vendu par ses frères. Qu'est-ce que Dieu a voulu lui montrer? Je suis convaincu dans la prison, je ne sais pas comment lui vivait ça, mais il devait peut-être se poser la question si Dieu l'avait abandonné, quoi. Mais Dieu avait un projet, avait un plan de vie pour lui. Et c'était de devenir un jour l'égal de Pharaon pour préparer la venue du peuple d'Israël en Égypte. Et si Joseph n'était pas passé par la prison, si Joseph n'avait pas été vendu, si Joseph n'avait pas tout vécu ça, il n'aurait jamais appris à pardonner. Et ce que Dieu voulait lui montrer, c'est que tu dois pardonner. Parce que si tu diriges, si tu es un leader irresponsable et tu ne sais pas pardonner, tu vas être un dictateur. Et tu vas te venger de tes frères le jour où tu vas les rencontrer. Et c'est la même chose pour l'Église. Un pasteur qui ne sait pas pardonner, ce n'est pas sa place. Un responsable qui ne sait pas pardonner, ce n'est pas sa place pour diriger dans une Église, aucun ministère. Dieu a des leçons de vie incroyables. Et on voit que Joseph a compris cette leçon de vie quand il disait à ses frères, Je n'ai pas à me mettre à la place de Dieu. Vous aviez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien. Il a voulu sauver la vie d'un grand nombre de gens, comme vous le voyez aujourd'hui. N'ayez donc aucune crainte, je prendrai soin de vous qui m'avez fait du mal, qui m'avez vendu. Je prendrai soin non seulement de vous, mais aussi de vos familles, parce que vos familles n'ont pas à subir la conséquence de vos fautes. Je vais prendre soin aussi de ces... Hein, c'est pas moi qui l'invente, c'est le texte qu'il dit ici, hein. Alors, s'il vous arrive de succomber au péché, ne vous découragez pas, car Dieu vous amènera à vous repentir, il vous conduira à travers toutes les tentations de ce monde, et à la fin, il vous recevra près de lui dans sa gloire. Frères et sœurs, en terminant, la vie a sa part de joie et de rire, mais nous savons aussi que la route de la vie est chaotique. Les tentations nous assaillent, les gens nous déçoivent, la maladie et l'âge nous affaiblissent, les tragédies et les peines nous prennent en otage, le mal et l'injustice ont parfois le dessus sur nous. La vie est difficile, mais Dieu est bon et le ciel est une réalité. Amen. Le ciel est une réalité. La bonté de Dieu est une réalité. Une des grandes vérités de la Bible, c'est que nous n'avons pas été créés seulement pour ce monde. La mort n'est pas la fin de la vie, elle n'est que la porte d'entrée vers l'éternité. Nous avons été créés pour vivre éternellement, et la mort n'est que la transition d'une vie à une autre. La question n'est pas de savoir s'il y a la vie après la mort, la seule question est de savoir où nous passerons l'éternité. Avec Dieu dans un endroit où la joie est sans fin et que la Bible appelle le ciel, ou séparé de lui dans un endroit où règne un désespoir sans fin que la Bible appelle l'enfer. Et un jour, cette vie prendra fin, mais pour le chrétien, la mort marque aussi un commencement, le commencement d'une nouvelle vie avec Dieu qui durera pour toujours. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 et 10, l'exprime de cette manière. « Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Hey, » Paul, il était transporté au ciel. Hein. Il a vu ce qu'il y avait dans le ciel, quoi. Il a vu. Ça, en tout cas, ça doit vous booster pour marcher. Hein. Ça doit vous booster pour prêcher l'Évangile. Il a vu, quoi. Il était transporté. Et là, il revient, puis qu'est-ce qu'il dit? Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Il n'y a pas un être humain qui a vu, qui a entendu ce que j'ai vu et entendu. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Et il a été emporté en Esprit. car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Frères et sœurs, au milieu des déceptions et des souffrances de la vie, notre espoir glorieux, c'est le ciel. Et nous savons que le ciel est une réalité à cause des promesses de Dieu. D'un bout à l'autre de la Bible, Dieu nous assure que nous avons été créés pour vivre avec lui, pour l'éternité. Le psalmiste déclare, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Job a déclaré, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier jour sur la terre quand ma peau sera détruite. Il se lèvera quand je n'aurai plus chair, je verrai Dieu. Hey, » Dieu va me donner un nouveau corps, va me donner quelque chose de merveilleux. Jésus a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Et Paul nous rappelle que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. 2 Corinthiens 5:1. C'est par amour que Christ est venu sur la terre afin de détruire la mort et de nous amener avec lui auprès du Père à tout jamais. Et la résurrection de Jésus prouve hors de tout doute que la mort n'est pas une fin que devant nous il y a le ciel. Jésus a promis, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne le vous l'aurais pas dit, je vais donc vous préparer une place. C'est ordinaire, ça. Seigneur, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Si ce n'était pas la vérité, je ne vous l'aurais jamais dit. Moi, je ne suis pas un menteur, je ne suis pas comme les hommes. C'est ce que la Bible dit, Dieu n'est pas menteur comme les hommes. Jésus part, il dit, écoutez, je vais vous préparer une place. Et si ça n'avait pas été vrai, je ne vous l'aurais jamais dit. Parce que moi, je vous dis la vérité. Il est en train de nous préparer une place. Voilà notre espoir assuré, frères et sœurs. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, dit Paul dans 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18, mais à celles qui sont invisibles. Les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Frères et sœurs, nous sommes des chrétiens, nous sommes des citoyens du royaume de Dieu. Les gens de ce monde gardent leurs yeux sur le royaume de ce monde. Nous, les chrétiens, gardons nos yeux sur le royaume des cieux. Le royaume des cieux, frères et sœurs, il est dans votre cœur à travers l'Esprit que Dieu nous a donné. Mais aussi, Dieu est en train de nous préparer une demeure extraordinaire. Un jour, il créera une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Et j'espère que c'est votre espérance vivante, ça, aujourd'hui, que quand toutes ces choses-là seront accomplies, vous habiterez sur cette nouvelle terre et ce nouveau ciel. Louons Dieu pour l'espoir que nous avons en Christ. Amen.